Bon, mais moi, je vais vous présenter le livre de Joël Zask, qui s'appelle ZooCity. On est très, très loin du sujet précédent. Joël Zask, c'est une philosophe qui est née en 1960, qui fait une thèse de doctorat en 1998 sur Dewey, qui est ensuite professeur d'université à Aix-Marseille en 2009 et actuellement détaché à l'Institut Marcel Mauss à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, elle a fait un certain nombre d'ouvrages, hein, c'est une spécialiste de Dewey et une spécialiste aussi de la démocratie sociale. Les ouvrages de Joël Zask sont « Quand la place devient publique »,« La démocratie au champ »,« Quand la forêt brûle », alors c'est sur les feux immenses là, qui prennent un peu partout, « Une introduction à John Dewey », et il faut aussi compter dans son travail les traductions de John Dewey, donc en particulier « Écrit politique » chez Gallimard, « Expérience et nature » chez Gallimard et « Le public et ses problèmes ». Voilà pour la présentation. Alors sinon, pour parler de ce livre, il faut commencer par ce qui est arrivé au printemps 2020, en plein confinement. On découvre que le spectacle des animaux sauvages qui passent sous les fenêtres des habitants, dans le monde entier d'ailleurs, donc des canards, des chevreuils, des paons, des kangourous, des singes, et beaucoup de personnes font des vidéos qui circulent dans le monde entier. Alors évidemment, ce phénomène n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est son ampleur. Et ce phénomène suscite à la fois émerveillement et crainte. Il suscite aussi des interrogations. Comment une ville conçue pour repousser les animaux peut-elle leur servir en même temps de refuge? Quelles sont les causes de ce phénomène? N'y a-t-il pas une confusion entre les territoires, entre l'urbain et le rural? L'urbain végétalisé qui est devenu protecteur des animaux et le rural qui devient de plus en plus hostile. Enfin, est-ce qu'il y a une limitation à la migration des animaux sauvages vers les villes? L'enjeu de cet ouvrage est d'enquêter de façon circonstanciée et réflexive, explicative, sur ce phénomène, et de réfléchir sur un phénomène qui est appelé à s'amplifier. Que se passera-t-il si de nombreux animaux s'installent durablement et massivement dans nos villes? Pour le dire de façon très concise, ce livre revisite le mythe de l'Arche de Noé. Il pose les conditions d'un réaménagement de la ville avec des frontières indispensables permettant la cohabitation avec des espèces sauvages. En un mot, est-ce qu'une ville écologique est possible? Pensable. Alors, concernant la matérialité de ce livre, c'est un livre qui comprend 244 pages. Il est très facile à lire, le sujet s'y prête aussi. Il est composé de 26 petits chapitres, entre 6 et 10 pages. Et je dirais que c'est plus un cheminement qu'une construction conceptuelle. Mais au bout du compte, il peut constituer une sorte de caisse à outils pour le citoyen écologique en vue d'habiter la ville. Alors, évidemment, c'est difficile de traverser ces 26 chapitres. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver à travers le cheminement les étapes qu'on pouvait voir. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait en fait 3 étapes. Du chapitre 1 à 10, la présentation des faits, ainsi que le pourquoi et le comment du phénomène. Chapitre 11 à 16, où elle pose plutôt les conditions d'une cohabitation avec les animaux sauvages. Et troisième étape, le chapitre 17 à 26, l'arrivée à quai de la cité multispéciste et le moment où on est prêt à monter à bord d'une nouvelle arche de Noé écologique. Donc j'aborde ces différentes étapes. Tout d'abord, quels sont les faits? Les faits, c'est l'apparition d'animaux sauvages dans la ville. Fait qui n'est pas nouveau, mais qui concerne de nouvelles espèces et fait qui devient massif. Je prends le cas du renard. Renard, il y en a 1300 à Londres et à Zurich, une centaine à Paris. Multiplication des espèces, on compte 600 espèces différentes d'animaux sauvages à New York, 1500 à Paris. Et parmi ces espèces, on trouve des gros gibiers, gibiers entre guillemets bien sûr, des hyènes et des éléphants en Inde, des ours au Canada, des kangourous en Australie. Alors ce que l'on sait, c'est que ce phénomène est lié à deux facteurs. Le premier, c'est la détérioration des espaces naturels et la surexploitation des forêts, la destruction des forêts. Et le deuxième phénomène, c'est l'amélioration du biotope urbain. D'une façon générale, on dirait que ce phénomène est le symptôme et l'effet des dérèglements écologiques. Et c'est ainsi que beaucoup d'animaux trouvent meilleur refuge en ville qu'en milieu naturel. C'est le cas par exemple des abeilles, parfaitement acclimatées à la ville où elles trouvent un gîte facile, un milieu sans prédateurs et une nourriture abondante. Alors, ce qu'on peut dire aussi pour expliquer ce phénomène et la façon dont on le vit, c'est que la présence des animaux sauvages en ville modifie et ébranle les représentations de la ville. Depuis longtemps, la ville est pensée contre la nature. On construit des villes avec des hauts murs pour se protéger. Elle cite l'exemple de Jéricho, une ville de plus de 10 000 ans. Se protéger donc des invasions, mais aussi des animaux sauvages. Alors, et bien sûr que la ville a changé de nature, mais cette représentation de la ville subsiste. Et on dirait, pour aller un peu plus loin, que le projet urbain procède des progrès de la civilisation qui s'inscrit en opposition avec la nature, notamment en rupture avec l'animalité. Et de là procède l'idée d'une cité idéale. Alors cette cité idéale a été tracée depuis très longtemps, elle cite Hippodamos de Milet au 5e siècle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais ce modèle de rationalité de la cité idéale a été repris par à peu près tous les architectes jusqu'à Le Corbusier. Alors la cité idéale, c'est souvent un projet totalitaire, pensé pour le bien et le bonheur de l'homme, mais dans lequel il n'y a pas de place pour les animaux. Alors, les exemples abondent, bien sûr, du projet de Urbino au XVIe siècle jusqu'au familistère de Owen et jusque, anecdotiquement, bien sûr, Célesteville, vous savez, la petite ville de Babar, avec des maisons au bord de l'eau, entourées de fleurs et d'oiseaux. Tout y est rigoureusement maîtrisé et utile, en vue d'améliorer le cadre de vie et selon une exigence hygiéniste. C'est que dans ce préjugé de la ville construite pour l'homme, et uniquement pour l'homme, on s'enferme dans ce préjugé en oubliant le modèle de la cité. Alors on oppose la ville et la cité. Là où la ville est abstraite, verticale, hiérarchique, totalisante, fermée, opposée à la nature, fragmentée, sectorisée, la cité est d'origine plus démocratique, adaptée au contexte, aux besoins humains, ouverte, intégrée, intégrant la nature. C'est un lieu à partager et un lieu de pluralité. C'est cette cité comme une communauté de vie heureuse que souhaite Aristote et qui est occultée par la présence des animaux sauvages. De même qu'il y a un préjugé sur la conception de la ville, il y a aussi des préjugés concernant la conception de l'animal. Il y a un préjugé sur l'animal en ville. Alors cet animal qui apparaît en ville est toujours un animal dénaturé, modifié dans son essence, n'ayant pas sa place en milieu urbain. Il y a d'un côté la ville, lieu privilégié du domestique, et de l'autre, alors je m'excuse parce que c'est un mot qui revient tout le temps, c'est une sorte de concept, le wilderness, le lieu privilégié de l'animal sauvage. Alors on donne comme exemple le paresseux. Alors le paresseux, c'est une sorte d'ours au pelage broussailleux vivant dans la forêt amazonienne. Eh bien, ce paresseux se promène dans les rues de Macao au Brésil et personne ne sait pourquoi ils viennent là et ils sont là, si bien que les gens appellent la police et il y a des escouades de gens qui les protègent, qui s'occupent d'eux, des sauveteurs, voilà, qui les ramènent dans la forêt, mais une fois qu'ils sont ramenés dans la forêt, dans leur milieu naturel, eh bien, ils reviennent avec the call of the city, donc l'appel de la ville. L'animal est donc quelque chose d'indésirable, pour une deuxième raison, parce qu'il réveille l'angoisse de prédation. Cependant, il faut dire que cette prédation, comme beaucoup de choses qu'on va voir tout au long du livre, c'est que c'est un préjugé ambivalent. Tantôt le sauvage représente la force du mal, la cruauté, la férocité, et tantôt il éveille l'imaginaire du wild, la force de l'intelligence, de l'instinct juste, le symbole de la bravoure que l'on retrouve notamment dans les documentaires animaliers. L'animal est d'autre part vécu comme antagoniste et souvent en termes de conflit. Il est soit maîtrisé, domestique, intégré aux besoins et aux modes de vie humains, soit rejeté parce qu'il est inquiétant, incontrôlable et dangereux. Dès qu'il y a prolifération, il y a exaspération, besoin d'expulsion et d'élimination. Il est vécu, dans ce cadre-là, comme une invasion, une colonisation, une sorte de délinquance, entre guillemets, sauvage. En tout cas, c'est ce qui se passe avec les perruches et les frelons asiatiques, les dromadaires d'Australie, les élans à Anchorage, les macaques à New Delhi, et aussi avec les ours, les loups. Tous ces animaux suscitent des craintes ancestrales, imaginaires, mais aussi des craintes sanitaires, si bien qu'on passe d'un extrême à l'autre, de la biophilie à la biophobie. Enfin, si cet animal est rejeté, c'est aussi parce qu'il est sans foi ni loi, parce qu'il s'installe dans une sorte de vide juridique. Et quand l'animal est errant, eh bien, il devient nuisible. C'est pourquoi il fait l'objet de politiques d'éradication et de contrôle. L'animal sauvage est donc voué à la fourrière, à l'abattage, au piège, au déplacement. Et on signale aussi que le marché des produits nuisibles est en constante augmentation. Mais comme on le voit là aussi, ces politiques sont ambivalentes. On veut d'une part se débarrasser des animaux sauvages, mais en même temps, on étend les espaces verts et on multiplie les mesures de protection de la biodiversité. Donc il y a un double discours. Un discours de la bonne conscience, mais qui n'empêche pas d'affirmer que l'animal sauvage n'est pas le bienvenu, avec cette autre réalité qu'on a beau les éliminer, ils reviennent toujours. Ils se repeuplent, ils colonisent les mêmes lieux et ils régulent leur population. Alors que faire? Comment penser la ville en tenant compte de l'ambivalence affective? Comment articuler empathie et détestation dans un projet de coexistence avec les animaux sauvages? Comment faire? Avant de répondre à cette question, il faut appréhender les conditions susceptibles de construire une problématique d'insertion de la vie sauvage dans la ville. Et Joël Zast donne quelque chose comme 6 conditions. En premier lieu, ce qu'il faut opérer, c'est une réforme de nos modes de pensée à l'égard de l'animal et modifier notre regard ou notre rapport à l'animal. Engager une réflexion critique sur les catégories clivantes liées à notre imaginaire anthropologique ou anthropomorphique, on dirait plus. Et en particulier la distinction qu'on fait entre sauvage, domestique et féral. Le sauvage lié à l'imaginaire du wild, le domestique à l'imaginaire de la dépendance et de la soumission, et le féral lié à l'imaginaire du bâtard parasite. Le féral, ce sont ces animaux qui étaient domestiques et qui retournent à l'état sauvage. Alors, il faut considérer que l'animal n'est pas nuisible en soi et que les catégories qui permettent de le situer sont mouvantes et elles s'inscrivent dans un écosystème évolutif avec des relations réciproques. Ce qu'il faut intégrer, c'est plutôt la réalité des liminaires résidents, c'est-à-dire ces animaux qui vivent, dans l'environnement humain, et accorder aux animaux sauvages un statut de résident, une sorte de droit de cité animale. C'est le cas, par exemple, des singes mendiants en Inde, ou des goélands à Marseille, ou des vaches sauvages en Corse. Une deuxième condition, ce serait de reconnaître que la nature est imprévisible. Le caractère imprévisible de la nature, c'est ce qui fait son essence, comme l'ont remarqué des auteurs comme Thoreau, Réaumur, Liste, Buffon. On ne peut pas prévoir quel va être le comportement de l'animal. Et les animaux dans la ville démontrent bien que le travail de la civilisation n'efface pas la nature, le wilderness persiste. En troisième lieu, il convient de se méfier de l'empathie spontanée qu'on peut avoir à l'égard des animaux, car cette empathie peut conduire à l'erreur. Si l'on veut protéger la nature, eh bien, il faut beaucoup de circonspection. Par exemple, la réintroduction d'animaux sauvages dans les territoires d'origine, comme le loup, le lynx ou l'ours, c'est quelque chose qui marche bien. Mais en revanche, il y a des pratiques de protection qui sont désastreuses. Et elle cite en particulier le cas des abeilles sauvages. Ces abeilles sauvages se retrouvent en compétition avec des abeilles domestiques et la surpopulation, la multiplication des protections de ces abeilles fait que les abeilles sauvages sont désormais menacées. Il y a d'autres exemples, des choses qui ne fonctionnent pas, c'est le déplacement des chauves-souris, par exemple dans le jardin botanique de Melbourne. Les animaux reviennent toujours à l'endroit initial et c'est eux-mêmes qui choisissent leur habitat. Quatrième chose, il faut savoir que nous ignorons à peu près tout des capacités adaptatives des animaux en milieu urbain. Ces animaux ne sont ni des machines ni des alter-ego. Ils inventent leur propre comportement parfaitement adapté à la ville. Ils se modifient génétiquement, par exemple les arbres de Porto Rico qui ont des coussinets plus larges. Ils modifient leurs habitudes, ils modifient leur mode de communication et ils parviennent parfaitement à s'intégrer au milieu urbain, comme le montrent les roussettes, c'est des chauves-souris à Tel Aviv. On y reviendra. Toutes ces adaptations constituent un champ de recherche qu'il faut entreprendre et qui est actuellement en jachère. Parmi les fausses pistes, il y a aussi la cohabitation avec l'animal dans des espaces sanctuarisés, espaces qui sont les friches industrielles, les terrains vagues, les immeubles abandonnés, etc. Ces espaces sont investis par des écologistes qui en font des refuges de biodiversité. Ça fonctionne assez bien, ce sont des tiers paysages qu'on appelle. La vie animale y prend ses quartiers, mais malheureusement ça ne permet pas de penser la cohabitation et l'ajustement réciproque entre l'homme et l'animal. Enfin, il faut savoir que la cohabitation avec les animaux n'est pas sans risque, notamment elle menace la barrière des espèces qui empêche la contamination des virus. Les animaux sauvages ne sont pas nos amis, il faut déterminer la bonne distance et l'entretenir pour cohabiter avec eux. Alors, ces conditions étant définies, que faire maintenant ? Comment penser à un écosystème urbain inclusif ? La première chose, c'est d'abord de se garder de la malédiction du melting pot universel, la confusion qui règne dans une idéologie du grand tout égalitaire, métissé, garant de la paix, Si on veut un modèle, il faut plutôt s'appuyer sur le mythe de l'Arche de Noé. Pourquoi l'Arche de Noé ? Bien parce qu'il répond à trois principes. Un principe de justice, le respect des lois de la nature, le respect de la pluralité des espèces dans leur singulière liberté. Ce système urbain comprend des cloisonnements qui permettent de séparer les espaces et les mettre à distance les unes des autres. L'habitat consiste à disposer de niches et de voies de passage. C'est un régime où les différences peuvent constituer une communauté fraternelle. Ce qui suggère également, par rapport à la distinction qu'on faisait tout à l'heure, la transformation politique de la ville en cité. La future ville écologique sera une cité de niche, où le problème ne sera pas d'habiter ou de cohabiter, mais de vivre ensemble dans l'intelligence du voisinage. C'est la notion de voisinage qui devient un concept central, parce que c'est une dialectique de la proximité et de la distance, une dialectique qui définit une géographie du hasard de la relation informelle, avec des liens faibles, des échanges flottants, libres et désintéressés. Avec cette condition impérieuse, qu'il doit y avoir une configuration logistique pour permettre à chaque espèce de s'isoler du bruit, des odeurs, de la promiscuité, etc. Le voisinage permet d'inventer de nouvelles relations dont le principe est de vivre et de laisser vivre. C'est un principe d'une éthique minimaliste et asymétrique qui exclut toute empathie. Le principe du respect du milieu et de l'accompagnement après coup à partir de l'observation des animaux et du comportement de ces animaux. C'est ce qui a été réalisé à Hambourg avec les hérissons, au Japon avec les corbeaux. Tout l'enjeu d'une politique d'observation et d'ajustement bien compris de la vie sauvage. Un point central de cette éthique, c'est de ne pas nourrir les animaux. C'est une sollicitude compassionnelle qui est une habitude chez nous, mais qui comporte des effets pervers parce qu'elle modifie le comportement des animaux, elle efface la peur de l'homme et les rend agressifs, on a le cas des ours et des goélands, et elle aggrave les déséquilibres écologiques. La philosophie du Moyen-Âge consiste à éviter les conflits avec les animaux en visant leur indépendance, chacun chez soi, et tout le monde circule en bonne entente. Il s'agit de ménager la protection des animaux en s'ajustant à leur présence, en instaurant une distanciation intra-urbaine. Alors cela s'applique aux espèces les moins bien tolérées, les renards, les ragondins à Bordeaux, les pumas en Californie, et puis d'autres animaux. La finalité de cette approche par le voisinage, les niches, l'éthique de l'indépendance, c'est la construction d'une cité multispéciste, c'est-à-dire la transformation du modèle de la ville besoin-contrôle en cité-solution-réponse. C'est-à-dire une cité capable d'accueillir de l'imprévu, d'accompagner les animaux qui arrivent et d'échapper aux réflexes anthropomorphistes. La cité multispéciste remarque par certaines pratiques l'adaptation à la pluralité des espèces, le partage de l'espace. Elle cite par exemple les lions de mer en Californie à qui on a réservé un quai, le quai numéro 39, la végétalisation des toits avec des plantes locales, la logique de proposition et d'accompagnement, la mise en œuvre de projets pragmatiques à petite échelle, de petites choses, l'installation de niches et de corridors pour consolider les passages existants. L'enjeu de ces politiques, c'est de faire cité dans le cadre d'un projet politique démocratique. Et c'est ce qui s'est passé à Tel Aviv, où il a fallu plus de 10 ans pour aménager des corridors du nord au sud pour protéger les chauves-souris, intervenir contre les promoteurs immobiliers, mais aussi contre les volontés expansionnistes et coloniales. Faire cité, c'est engager une nouvelle conception de l'habité, une nouvelle philosophie de la vie en société basée sur un écosystème de la maisonnée. C'est considérer la ville comme un flux et comme un mouvement permanent, c'est accepter que la ville soit traversée par des processus dynamiques liés à l'imprévisible. C'est l'appel à un nouvel urbanisme écologique vers une ville adaptative, modulable, en respectant le bâti existant. En forme de conclusion, je voudrais simplement évoquer le passage du possible au réel en présentant le cas de Tel Aviv. En 1960, Tel Aviv est envahi de roussettes, ces fameuses chauves-souris agricoles. On les traite de façon chimique avec du dibromure d'éthylène et on arrive au résultat qu'on décime 27 espèces protégées sans empêcher la roussette de proliférer. Et non seulement elle ne prolifère pas, mais elle va s'installer dans d'autres centres-villes. Donc il a fallu l'intervention de l'urbaniste Patrice Guedes, une conception d'un plan d'ensemble adaptatif de cohabitation des espèces, et cet écosystème est devenu viable. Les arbres climatisent la ville, les animaux prospèrent et les gens font leurs affaires. Une alliance qui a été conclue. C'est une esquisse du nouvel Arche de Noé qu'il convient d'envisager pour la cité écologique de demain.